Europe, le moment de vérité. La grande table des idées passe à l'européenne avec 5 invités, 5 points de vue. Demain, la psychanalyste Elisabeth Roudinesco. Mercredi, le médiologue Régis Debray. Jeudi, l'italien Carlo Ossola et l'auteur de Peuplocratie, Marc Lazare, réunis. Pour finir, vendredi, avec le philosophe britannique Roger Scruton. 5 grandes voix européennes des idées. Vous pouvez nous suivre et réagir via le hashtag Votre Europe. Aujourd'hui, premier épisode. L'Europe est-elle malade de sa mémoire? Avec nous pour en parler, notre invitée, l'essayiste et documentariste franco-allemande Géraldine Schwartz, prix du livre européen l'an passé pour les amnésiques, paru chez Flammarion, traduit en 7 langues, publié dans 9 pays, dont l'Allemagne et la France, bien sûr. Et un ouvrage qui reparaît d'ailleurs en ce moment en édition augmentée dans la collection Libre Champ. C'est une réflexion personnelle et historique sur le devoir de mémoire que se sont imposées 3 générations d'Allemands et peut-être de Français, voire sur le droit à l'oubli que l'on a pratiqué aussi depuis, à travers sa trajectoire à elle, celle de sa famille. À nos côtés aussi, Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste au journal La Croix, qui va nous accompagner le journal toute cette semaine. La Croix qui a mis en place tout un dispositif éditorial en vue des européennes, dont vous nous reparlerez tout à l'heure. Jean-Christophe Ploquin, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Géraldine Schwartz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'enfant d'une double culture, père allemand, mère française, et d'une double éducation, pédagogie allemande, verticalité française. Après tout ça, aujourd'hui, si vous deviez vous définir, quelle européenne êtes-vous ?
Écoutez, la première question que je me suis posée avant d'écrire ce livre, c'est le décalage de vécu entre mes grands-parents allemands qui ont vécu que une Europe de dictature, de guerre et d'après-guerre, et moi qui ne connais même pas l'odeur de la guerre. Et le problème de ceux qui, comme moi, dans ma génération, n'ont jamais connu la guerre, c'est que nous avons tendance à oublier ce que ça a pu être, et nous avons des difficultés à nous l'imaginer. Donc la seule arme pour contre ça, c'est la transmission de la mémoire, et donc je me définirais comme une européenne de la mémoire qui doit être à la fois positive et négative.
Et allemande et française à parts égales?
Je suis assez opportuniste, ça dépend des questions en fait. La question de l'ancrage de la démocratie, le discernement des populations face au populisme, je suis davantage allemande aujourd'hui.
Cette réflexion autour de la mémoire familiale et collective, c'est aussi un appel à la responsabilité que vous adressez à ceux que vous appelez les enfants gâtés de la paix, c'est-à-dire vous, nous, moi également. Quels seraient les fondements de cette nouvelle responsabilité morale et individuelle que vous appelez de vos voeux ?
Je fais le constat que on a tendance à oublier que évidemment la démocratie, la liberté et la paix dont nous jouissons aujourd'hui n'est pas un acquis pour toujours, et surtout c'est le résultat d'un travail. Et ce travail n'a pas assez été traité. Je pense qu'on a un petit peu oublié les décennies d'après-guerre en Europe, quel travail ça a été pour construire le monde dans lequel nous vivons. Mais pas seulement après 45, mais aussi après 89. Et nous avons aujourd'hui une espèce de, je pense, un devoir de préserver cet héritage aussi pour les prochaines générations, et de pas le mettre en danger par insouciance et aussi par naïveté, deux caractéristiques qui aujourd'hui, je trouve, définissent un petit peu l'attitude d'une partie des peuples européens qui présente un décalage entre la perception de l'Europe, qui est assez négative aujourd'hui, et une réalité qui est finalement un projet qui a tenu parole sur les points essentiels.
On va suivre deux personnalités européennes aujourd'hui, deux personnalités françaises. C'était au printemps 2018 et vous allez voir que les témoignages qu'elles ont pu recueillir font écho à ce que vous évoquez, Géraldine Schwartz. C'était un porte-à-porte réalisé donc il y a un an lors de la Grande Marche pour l'Europe. Et c'est Nathalie Loiseau et Amélie de Montchalin, respectivement ministre des Affaires européennes et députée LREM de l'Essonne, devenue depuis l'une tête de liste de la liste majoritaire et la seconde lui succédant désormais au secrétariat d'État aux affaires européennes. Écoutez ces rencontres.
Je suis votre députée et je suis avec Madame Loiseau qui est la ministre des Affaires européennes.
Oui.
Et si vous avez 5 minutes, on veut bien parler d'Europe.
Est-ce que vous avez senti des choses communes avec d'autres Européens ?
Non, pas vraiment.
Vous trouvez qu'ils sont très différents de
oui,
vous ?
Oui, oui.
La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'on a trouvé un pont.
On a trop d'impôts.
Oui,
et ça, c'est lié à l'Europe, vous pensez?
Non.
Sûrement aussi, si. Moi, je suis frappée. L'Europe sociale et l'environnement, c'est vraiment des thèmes qui reviennent tout le temps. Il y a une attente par rapport à ça.
Et inversement, moi, je suis surprise aussi parce que moi, dans ma tête, l'Europe, c'est la paix. C'est ce qui fait qu'on peut vivre en paix avec nos voisins, qu'on se parle, qu'on n'est pas toujours d'accord, mais qu'au moins, on a voilà, une vision commune et partagée des grands enjeux. Et la paix, la sécurité, c'est l'essentiel. C'est pas du tout quelque chose qui ressort. Donc ça veut dire que notre vision, parfois, de l'image qu'on se donne nous-mêmes des institutions, c'est pas celle que les Français mettent en avant de manière spontanée.
Est-ce que vous entendez, Géraldine Schwartz, ce sentiment de lassitude qui a pu s'imposer dans le grand récit européen qui nous est livré aujourd'hui depuis plus de 50 ans, cette Europe de la paix construite sur cet idéal-là, certes, mais est-ce que c'est encore un argument qui se suffit à lui-même ?
Écoutez, ce décalage, pour moi, en fait, ce qui est vraiment révélateur, c'est ce décalage entre la perception négative de l'Europe et la réalité du projet européen. Et je pense qu'il faut absolument s'intéresser à ce décalage, d'où il vient et qui profite de ce décalage. Je pense qu'en premier lieu, ce sont les partis populistes qui ont non seulement nourri ce décalage, mais aussi en profitent. Et il faut aujourd'hui absolument donner envie d'Europe aussi, à la fois en mettant en garde contre les dangers d'une dislocation de l'Union européenne, et aussi en rappelant le récit positif de l'Europe, ce qui n'a pas assez été fait, parce qu'on s'est concentré sur la mémoire négative, c'est-à-dire la mémoire des guerres, la mémoire de l'Holocauste, qui a servi un peu de fondement finalement à l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale. Or, ce qu'on a oublié de rappeler, c'est tout ce travail qui a été réalisé après la guerre, notamment en Allemagne, et c'est aussi l'objet de mon livre, pour transformer en fait les peuples européens qui étaient en démocrates, et puis aussi pour en personnes qui ont forgé un esprit critique et une certaine ouverture vis-à-vis des autres peuples européens. Souvent, je cite le cas de mes parents qui se sont mariés dans les années 60. Mon père est allemand, ma mère est française, et lors de leur mariage, leur mariage a vraiment créé un séisme dans les deux familles. Il y avait une vision chargée de clichés sur les deux pays, beaucoup de haine encore. Et aujourd'hui, en Allemagne, on est extrêmement francophile, et en France, je trouve quand même, depuis 15 ans en tout cas, qu'on s'intéresse beaucoup à l'Allemagne, qu'on s'est beaucoup rapproché. Donc il y a un discours, entre le discours qu'on entend au niveau politique d'une amitié franco-allemande qui serait en danger, et la réalité des peuples, eh bien il y a un décalage, et je pense que c'est important de le rappeler.
D'ailleurs, ce discours plus positif sur l'Europe, transformer et renouveler le récit qu'on nous livre depuis plusieurs décennies aujourd'hui, c'est aussi un peu ce que vous faites, Jean-Christophe Ploquin, dans les pages de La Croix, dans ce dispositif que vous avez mis en place à travers une série qui va débuter le 23 avril jusqu'au 19 mai, tous les jours, ce que l'Europe nous apporte vraiment. Et à travers ça, c'est quand même un plaidoyer européen. Vous tentez de mettre en avant les aspects positifs de la construction européenne et de l'Union aujourd'hui.
Oui, c'est ça. L'objectif, c'est d'être ni eurosceptique ni eurobéat. On veut dire qu'on serait euro-constructif. Et donc, l'objectif, c'est, effectivement, c'est de, en sillonnant la plupart des pays de l'Union européenne, c'est de montrer en quoi il y a vraiment des politiques concrètes et des enjeux très concrets qui sont soutenus par l'Union européenne dans ces différents pays. Donc, très clairement, on regarde le verre à moitié plein, on ne nie pas qu'il soit parfois à moitié vide, mais on montre en quoi il y a des programmes qui permettent de développer des régions, de soutenir avec les aides à la reconversion, des aides y compris pour la protection contre les catastrophes naturelles, dans l'Italie de Monsieur Salvini par exemple, et aussi évidemment beaucoup de programmes qui favorisent les échanges d'un pays à l'autre. Et puis on voit aussi monter ces sujets d'une Europe qui protège les pays baltes par rapport à l'influence du voisin russe, des sujets aussi en termes de consommation et de production aussi de qualité avec par exemple les appellations d'origine protégée. Donc voilà, à travers différents exemples, 4 pages par jour à partir du 23 et pendant 4 semaines. Donc on va essayer de montrer cette Europe concrète et de demander aussi aux habitants de cette Union européenne, finalement pour vous, que vous apporte l'Union européenne.
Voilà, il faudra que vous envoyiez ce dossier à Nathalie Loiseau et à la nouvelle secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, pour qu'elles aient un peu de billes pour répondre lors de leur prochain porte-à-porte.
Alors, elles pourront d'ailleurs s'abonner gratuitement, puisque pendant ces 4 semaines, l'abonnement à la Croix est gratuit.
Géraldine Schwartz, je reviens à vous. Dans cet essai, vous revenez sur votre double trajectoire familiale, marquée par la désunion des États et par la guerre. Alors, pour l'auditeur, rapidement, d'un côté, il y avait Karl Schwartz, votre grand-père paternel, qui faisait partie des Mitläufer, ces gens qui marchaient avec le courant, hein, comme la majorité du peuple allemand, ces gens normaux qui avaient suivi le régime nazi, non par conviction, mais plutôt par opportunisme, durant cette période-là. Et puis de l'autre côté, il y avait Lucien, votre grand-père maternel, gendarme, lui, dans un village de Saône-et-Loire, en zone libre, non loin de la ligne de la frontière de démarcation. À partir de ces deux trajectoires familiales, vous avez tenté de comprendre ce qui s'est passé pour eux pendant la guerre et après aussi comment le souvenir s'est transmis au sein de vos familles. De quel côté pour vous le travail de mémoire fut le plus actif dans les années qui ont suivi la guerre? Est-ce que c'était en Allemagne ou en France? Est-ce que des deux côtés ça a mis beaucoup de temps à se déclencher?
Oui, de manière générale, ça a mis beaucoup de temps à se déclencher dans tous les pays européens. Après la guerre, on pensait que pour reconstruire un pays, il valait mieux tourner la page. Cette approche a changé en Allemagne dans les années 60 et je raconte comment mon père va confronter son propre père qui a acheté une entreprise juive à bas prix en 1938 et qui, après la guerre, va refuser de verser des réparations aux seuls survivants de cette famille juive. À qui avait appartenu l'entreprise. Et mon père fait partie de cette génération qui va poser une question absolument primordiale, qui est « Et vous, qu'avez-vous fait pendant la guerre ?» C'est-à-dire que en Allemagne, la particularité du travail de mémoire, c'est que le cercle des responsabilités s'est élargi. D'abord, on considéré responsable quand même Hitler et puis la clique autour de Hitler. Et puis peu à peu, à partir des années 60, le cercle des responsabilités s'est élargi au point que on a reconnu que la société était responsable finalement, était co-responsable des crimes du Troisième Reich. Et cette question-là est primordiale parce qu'elle a permis aux citoyens de se demander comment on devenait un Mitläufer, donc quelqu'un qui marche avec le courant, ou bien voire un persécuteur. Et si on se pose cette question, eh bien on se pose évidemment la question de savoir ce qu'on ferait aujourd'hui. Et cela donne des clés aux citoyens pour approfondir son sens critique, son réalisme par rapport à sa propre faillibilité et puis son discernement face à des méthodes de manipulation qui aujourd'hui ressemblent à s'y méprendre à celles qui existaient il y a 100 ans.
Et côté français, donc, ça c'est côté allemand?
Ah oui, côté français. Et côté français, alors ça a mis aussi du temps. Dans les années 70, Robert Paxton, un ouvrage d'un historien américain, Robert Paxton, a fait éclater en 1000 morceaux le mythe résistentialiste. Donc il y a en France cette honte de Vichy. On s'intéresse énormément à Vichy, mais on a tendance à responsabiliser davantage l'élite, l'État, que la population. On s'est beaucoup moins intéressé justement au comportement de la population sous Vichy, qui a quand même soutenu le maréchal Pétain. Et le fait qu'on ait un petit peu éludé cette question, selon moi, a des répercussions sur l'ancrage démocratique, c'est-à-dire sur le niveau de responsabilisation individuelle et collective des citoyens en France par rapport à l'Allemagne. Et l'autre conséquence, c'est peut-être un manque de discernement vis-à-vis du populisme, qui explique qu'en Allemagne, il y a encore aujourd'hui, j'espère pour longtemps, une espèce de réticence vis-à-vis du populisme de gauche comme de droite.
Vous aviez une question sur la manière dont ce travail de mémoire était pratiqué en Allemagne, Jean-Christophe Ploquin.
Oui, et il me semble qu'il y a actuellement un débat en Allemagne sur la question de savoir s'il faut rendre obligatoire la visite des camps de concentration pour les écoliers ou les collégiens. Est-ce que je crois que ça se fait assez régulièrement, notamment à Sachsenhausen. Mais est-ce que vous pensez que c'est le type de démarche qui peuvent justement ancré finalement cette réflexion et cette mise en garde par rapport à ce qu'ont pu faire finalement les Allemands. Et ça me renvoie un petit peu aussi au souhait qu'avait eu à l'époque Nicolas Sarkozy quand il était président de la République, finalement que chaque classe soit finalement et un jeune résistant ou un jeune de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale qui soit en quelque sorte la figure, une sorte de figure de référence. On voit qu'on a un petit peu ce souci de créer du lien entre finalement cette période sombre et aujourd'hui. Est-ce que ces méthodes vous paraissent opportunes ?
Pour moi, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de décrypter les méthodes de manipulation ou les mécanismes socio-psychologiques qui font qu'un individu ou une société peut basculer par aveuglement, par conformisme, par opportunisme, dans l'irrationnel, dans le soutien d'un régime qui finalement est contre son intérêt, et dans le soutien d'un régime criminel. Et il faut absolument décrypter ça. C'est-à-dire, d'une part, un élément, je vais en citer un, pour vous montrer à quel point ces méthodes sont d'actualité. Le Troisième Reich était maître dans le brouillage de la frontière entre le vraisemblable et l'invraisemblable, entre le vrai et le faux. Aujourd'hui, on a ça avec fake news. Les partis populistes sont absolument maîtres pour inonder l'Internet de propagande mensongère. Et Hannah Arendt a dit à ce propos que quand les citoyens ne arrivent plus à distinguer entre le vrai et le faux, ils perdent leur repère et surtout ils sont incapables de jugement. Et un peuple incapable de jugement est malléable à merci. Donc ça, c'est la première leçon à tirer, je pense, de cette histoire-là. Et je ne sais pas si c'est en visitant des camps de concentration, si c'est simplement en visitant des camps de concentration qu'on transmet cette conscience aux citoyens. Il faut l'accompagner d'une prise de conscience qu'on est aussi susceptible, finalement, soi-même, de tomber dans ces travers-là.
C'est intéressant derrière le décryptage de comprendre et de voir si certains appels à la responsabilité ne sont pas parfois contre-productifs. Je vous propose de repartir en Allemagne, un pays où l'oubli ne semble pas permis. C'était en janvier 2015, à l'occasion des commémorations des 70 ans de la libération des camps de concentration. La chancelière Angela Merkel rappelait les Allemands à leur responsabilité.
Es ist eine Schande. Il est honteux que des gens en Allemagne soient frappés, menacés ou attaqués parce qu'ils se réclament du sionisme ou parce qu'ils prennent parti pour Israël. La mémoire de ce chapitre cruel de notre histoire habite notre conscience en tant que nation. Chacun doit pouvoir vivre en sécurité et librement chez nous, indépendamment de sa religion ou de son origine. Nous ne voulons pas de paroles racistes contre les croyants ou contre ceux qui croient différemment. Nous ne voulons pas de paroles racistes contre les juifs. Nous ne voulons pas de paroles racistes contre les gens qui ont trouvé en Allemagne un nouveau foyer ou qui ont fui chez nous la guerre ou les persécutions.
Voilà, nous ne voulons pas, dit-elle. On est vraiment dans le langage performatif. Elle impose aussi ce choix et ce refus. Mais est-ce que cette responsabilité éternelle, c'est le terme qu'Angela Merkel avait employé à cette occasion-là, est-ce qu'elle doit aussi continuer à s'imposer, y compris aux générations futures? Parce que c'est justement là-dessus que surfent les partisans de l'AfD, du parti d'extrême droite allemand, l'Alternative für Deutschland, qui, eux, fustigent ce culte de la culpabilité qui peut se jouer, selon eux, en Allemagne aujourd'hui encore.
Justement, cette mobilisation des partis populistes contre le travail de mémoire, pour moi, est un indicateur à quel point le travail de mémoire est important.
Parce que ça les dérange.
Ben voilà. Pourquoi ça les dérange ? Parce que le travail de mémoire, quand il est fait comme il a été fait en Allemagne, c'est-à-dire que il enseigne la vigilance, eh bien, il ne fait pas le jeu des partis populistes qui n'aiment pas trop s'encombrer de la vigilance des citoyens. Donc, cette mobilisation est vraiment indicatrice de l'importance de ce travail. Cela dit, Je pense qu'il faut quand même réformer ce travail de mémoire parce que les nouvelles générations aujourd'hui sont trop éloignées de la guerre et de l'Holocauste. Ils voient ça comme un passé un petit peu poussiéreux et surtout, ils voient peut-être pas forcément l'intérêt de connaître cette histoire pour aujourd'hui et puis de porter cette charge-là. Donc la première chose qu'il faut transmettre, c'est que c'est pas une charge. La mémoire, c'est comme une expérience. Donc c'est une richesse. C'est une richesse qui, par exemple, en Allemagne, beaucoup de pays s'inspirent de ce modèle allemand qui a permis, à travers le travail de mémoire, on a permis d'ancrer la démocratie. Donc, c'est quelque chose de positif. Et deuxièmement, peut-être qu'il faut un petit peu décaler le curseur et cesser de s'intéresser seulement à la guerre et à l'Holocauste, et justement de voir ce qui a été fait après. Et le contraste entre une Europe qui, en 1945, est en cendres, et cette renaissance, qui est quand même un récit extrêmement positif, qui n'a pas encore été transmis en tant que tel, aussi parce que je pense que ce rêve a été saboté par des partis populistes, et que malheureusement, trop de personnalités politiques, intellectuelles, médiatiques ont repris ce flambeau du négativisme à l'égard de l'Europe.
Mais les partis populistes sont toujours la conséquence de quelque chose. Donc ils ont aussi grandi sur ce terreau, peut-être sur le retour de ce que vous appelez le Gedankengut, cette amnésie ambiante aussi. Et en quoi elle est pour vous une porte ouverte au populisme de droite comme de gauche ?
Si vous voulez, oui, c'est le résultat dans une période de crise. On est dans une période de crise avec une perte de repères identitaires. Donc, les partis populistes cherchent à utiliser cette période de crise pour redonner une envie de nationalisme à leurs citoyens. Et je pense que évidemment, il faut se souvenir de la fin du 19e siècle, de cette espèce de montée en puissance des nationalismes et des conséquences que ça a pu avoir pour l'Europe. Je peux me répéter que des partis politiques qui remettent en cause le travail de mémoire, a priori, ont un objectif. Et cet objectif, c'est de réinventer une identité. C'est de s'engouffrer dans un espèce de vacuum identitaire, parce que qui dit amnésie, qui dit perte de mémoire, donc perte d'identité, pour forger une nouvelle identité artificielle.
Ça, vous le voyez dans tous les pays qui sont aujourd'hui gagnés par cette tentation de l'oubli, de l'Europe de l'Est à l'Italie, en passant par la France d'ailleurs. Hein.
Oui, si on minimise. De toute façon, pourquoi ces partis-là minimisent les crimes fascistes et nazis ? Mais parce qu'ils s'inspirent aussi de ce Gedankengut, de pensées fascisantes. Donc, pour endormir la vigilance des citoyens vis-à-vis de ces messages fascisants, eh bien, il faut minimiser les crimes du passé.
Alors, une question de Jean-Christophe.
Oui, je me demande s'il faut faire le lien avec cette actualité très brûlante dans laquelle nous avons été, notamment ce week-end, avec la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. On voit qu'il y a tout un courant d'histoire qui veut, en quelque sorte, faire une sorte d'étude comparée, finalement, des génocides. Mais c'est aussi une façon de montrer en quoi, finalement, un génocide est encore possible aujourd'hui. Alors, il s'est produit en Afrique, très loin, mais est-ce qu'il peut encore... Et finalement, est-ce que ça peut encore se dérouler ? Et aussi tout un travail dans les manuels d'histoire qui a été annoncé notamment par la nouvelle commission. Et donc l'enseignement un petit peu autour du génocide rwandais va être développé. Donc est-ce que là aussi, on est dans un travail de mémoire qui aurait des vertus un peu préventives en Europe ?
Je ne pense pas que l'histoire se répète. Et je ne veux pas non plus inutilement faire peur en agitant la menace d'un génocide. Mais en revanche, ce sont vraiment ces mécanismes socio-psychologiques qui se répètent. Prendre conscience de notre faillibilité. Mais il faut aussi, comme vous disiez, Olivia Gisbert, il faut écouter quand les populismes demandent finalement un changement du travail de mémoire ou bien dénoncent cette culpabilité éternelle pour les jeunes générations, il faut aussi savoir écouter ce message et y répondre par une mémoire positive. Il faut pas laisser le terrain de la mémoire positive aux populistes. C'est ce que je dis souvent en Allemagne. Il faut aussi rendre leur fierté aux Européens. Et donc éclairer ce qui, par le passé, était positif. Ça, c'est vraiment important. Et je pense qu'on a peut-être aujourd'hui trop de mémoire négative et qu'il faut la rééquilibrer. Donc il faut réfléchir, il faut repenser le travail de mémoire.
France Culture, il est 13h21, on est en compagnie de l'essayiste franco-allemande Géraldine Schwartz à l'occasion de la reparution en édition augmentée dans la collection Libre Champ de son livre Les Amnésiques, paru chez Flammarion, prix du livre européen l'an passé, et en compagnie aussi de Jean-Christophe Ploquin de La Croix, notre partenaire toute cette semaine.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
We must build a kind of United States of Europe.
Il nous faut édifier une sorte d'États-Unis d'Europe. Ce n'est qu'ainsi que des centaines de millions d'êtres humains auront la possibilité de s'accorder ces petites joies et ces espoirs qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. J'en viens maintenant à une déclaration qui va vous étonner. Le premier pas vers la création de la famille européenne doit consister à faire de la France et de l'Allemagne des partenaires. On ne peut pas s'imaginer une renaissance de l'Europe sans une France intellectuellement grande et une Allemagne intellectuellement grande. Si l'on veut mener à bien sincèrement l'œuvre de construction des États-Unis d'Europe, leur structure devra être conçue de telle sorte que la puissance matérielle de chaque État ne jouera plus qu'un rôle secondaire. Les petits États compteront autant que les grands et s'assureront le respect par leur contribution à la cause commune. Sur ce sujet pressant, la France et l'Allemagne doivent prendre l'initiative ensemble.
La France et l'Allemagne doivent prendre l'initiative ensemble, ce qui nous ramène au couple franco-allemand dont on nous parle dans les livres d'histoire, là encore, depuis plus d'un demi-siècle. C'était en septembre 1946 que le Britannique Winston Churchill appelait de ses voeux à l'université de Zurich cette initiative franco-allemande axée, basée sur une réconciliation entre les deux pays. Est-ce que ce moteur franco-allemand va un jour finir par se mettre en marche? Et d'ailleurs, est-ce souhaitable pour vous, Géraldine Schwartz?
Vous êtes sévère, je pense qu'il est déjà en marche. Écoutez, dans mon expérience personnelle, m'invite quand même à être assez positive, parce que j'ai vécu en France et j'ai été quand même victime de germanophobie dans les années 80 et 90, mon père aussi. Les clichés qui circulaient étaient le pire cliché qui circulait était que derrière chaque Allemand se cachait finalement un nazi, un robot qui obéissait aveuglément aux ordres. Et cette vision-là, j'ai l'impression, a quand même changé en France. Donc, il y a une évolution considérable.
Qui lie aujourd'hui une amitié franco-allemande, comme le dit l'essayiste Coralie Delhomme, ne fait pas pour autant, en termes institutionnels et de force politique, un couple franco-allemand.
Oui, mais qu'est-ce qui est le plus important? Je pense que ce qui est quand même plus important, et le défi qui était le plus difficile à relever dans les années 60, lorsque Adenauer et De Gaulle ont commencé à former ce couple franco-allemand, c'était de convaincre les peuples. Donc le fait que ça a été fait, déjà, pour moi, c'est une indication qu'on peut tout à fait aussi rêver d'une identité européenne. Parce que je trouve que ça a quand même assez bien fonctionné au niveau des peuples entre l'Allemagne et la France. Au niveau des institutions, vous savez, il y a pas longtemps, j'étais sur un podium en Allemagne avec une polonaise, une politicienne polonaise qui était contre l'Union européenne et qui a beaucoup critiqué ce moteur franco-allemand parce que c'est finalement un moteur qui exclut l'Europe de l'Est. Donc on peut aussi repenser ce moteur, on peut peut-être penser à des configurations différentes de manière à inclure l'Europe de l'Est et à être beaucoup plus cohérent avec la configuration de l'Union européenne aujourd'hui depuis la chute du mur en 1989.
Il n'y a pas une Europe pour vous aujourd'hui, une Union européenne, il y en a vraiment plusieurs. Ce sentiment d'appartenance, si on va voir du côté citoyen, ce sentiment d'appartenance à une communauté de destin, ça, c'est un échec. On n'a pas réussi à le mettre en place.
Je pense que pour le moment, c'est encore un échec. On n'a pas réussi à le mettre en place. Peut-être qu'il nous faut la fiction pour le mettre en place. Peut-être une série Netflix sur l'Europe. Mais c'est pas une fatalité. C'est quelque chose qui se construit. La chute du mur a eu lieu il y a 30 ans. 30 ans, c'est pas beaucoup. En Europe occidentale, en 75, il y avait encore beaucoup d'hostilité entre les pays ouest européens. Donc, il faut aussi donner du temps à cette construction d'une identité européenne, mais pour cela, il faut se montrer ouvert envers l'Europe de l'Est, ce qui n'est pas du tout le cas en France. On s'intéresse quand même assez peu à l'Europe de l'Est. On connaît mal ces pays, et ces pays souffrent d'un manque de reconnaissance.
Une question, oui, moi, ce serait un petit peu revenir sur les années récentes. On a le sentiment d'un couple franco-allemand qui a eu peut-être une sorte de période, une sorte de climax avec Kohl-Mitterrand. Et depuis, des relations beaucoup plus compliquées, difficiles. Tout à l'heure, vous disiez, les Allemands sont toujours très francophiles et les Français sont beaucoup moins germanophiles. Mais il y a un peu le sentiment que peut-être aussi en Allemagne, il y a une distance un peu qui se crée avec la France. Donc, est-ce que dans les années récentes, vous avez vu quand même des éléments qui pouvaient témoigner d'une distance ou d'une empathie moins forte qu'auparavant?
Vous faites référence au projet européen d'Emmanuel Macron. Le projet européen d'Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il est soutenu par beaucoup de Français. Donc, cette distance, elle est à l'égard de qui? À l'égard d'Emmanuel Macron ou à l'égard des Français? Peut-être que les Français, finalement, dans leur majorité, sont plus favorables au projet européen tel que le voient les Allemands, c'est-à-dire de manière un peu plus prudente.
On va revenir à vous, oui. Jean-Christophe Ploquin, parce qu'il nous reste une bonne minute pour discuter un peu de vos partis pris éditoriaux, ceux de La Croix, à l'occasion du scrutin européen. Tous les lundis, il y aura donc une rubrique écho, et tous les week-ends, un grand dossier, notamment, à suivre samedi et dimanche prochain, l'Europe et ses fractures. On va revenir sur les clivages aujourd'hui, les nouveaux clivages. Est-ce que le projet européen pourra y résister? Ça fait partie des questions que vous aborderez.
Oui, bien sûr, le projet européen aujourd'hui était à 28, il va bientôt être à 27. On voit des tensions à l'intérieur de l'Union européenne, des entités finalement géographiques qui obéissent à des évolutions différentes. Donc l'Union européenne va certainement poursuivre sa marche, mais est-ce qu'elle sera à géométrie variable, à des vitesses différentes, sur des projets différents? C'est un petit peu tout ça qu'on va explorer, mais vraiment avec une présence sur le terrain et des récits, des rencontres avec des acteurs en Pologne, dans les Pays-Baltes, à Chypre, à travers l'Union européenne. Et puis sinon, j'ai deux cadeaux. Un supplément de 8 pages qu'on a fait avec le mouvement européen, qui s'appelle Au cœur du Parlement européen, qui est distribué, on l'a fait avec le mouvement européen France. Donc il est distribué actuellement dans tous les meetings qu'organise le mouvement européen France à travers la France. Et puis sinon, le mercredi 15 mai à 20h, La Croix organise un débat à Paris, au Collège des Bernardins, avec notamment Michel Barnier, Cécile Duflo, Véronique Fayet et un grand patron, pour les interpeller sur l'Europe, en quoi l'Europe doit-elle changer pour être plus proche des citoyens.
Et c'est la question que France Culture se pose toute la semaine, durant cette semaine spéciale, Géraldine Schwartz. En un mot, est-ce qu'on est en train de vivre un moment de vérité pour vous, aujourd'hui, pour l'Europe?
Pour moi, l'urgence aujourd'hui, c'est de rappeler qu'il est totalement naïf de penser que face aux défis du 21e siècle, les pays européens, de manière isolée, pourraient faire face à ces défis. On pourrait y faire face seulement de manière unie.
Géraldine Schwartz, Les Amnésiques, prix du livre européen. Merci beaucoup à vous, Jean-Christophe Ploquin, notre merci. Partenaire de La Croix toute cette semaine. Merci à vous et merci à toute l'équipe de La Grande Table pour sa préparation et programmation. Mayan Escovic et Laura Dutèche-Pérez, Oriane de La Croix et Henri Leblanc, avec Mathilde Tonfourcade et Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Pascal Baudin.